Les jardinières. Eileen, Mylène, bonjour.
Bonjour Sandra, bonjour Eileen.
Bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes nombreux à nous écouter le samedi matin. Les fidèles, vous savez de quoi nous allons parler ce matin. Et à vous qui nous rejoignez, eh bien, bienvenue dans les jardinières. On est ensemble jusqu'à 8h et ce matin, pour nous accompagner et répondre à toutes vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Ribaud, paysagiste à Queuve. Olivier, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous allez rendre le sourire aujourd'hui à celles et ceux qui vivent en appartement et qui ont une terrasse, car ensemble, nous allons apprendre à transformer une terrasse ou un balcon en un petit écrin de verdure.
Et je vous rappelle que les jardinières sont là pour répondre à toutes vos questions en compagnie de notre invité jusqu'à 8h pour nous poser les questions. Vous avez plusieurs possibilités, hein. Soit vous remplissez le formulaire qui se trouve sur notre site internet, ou alors vous nous envoyez un petit SMS, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace, suivi ensuite de votre question, le tout t'as envoyé au 939. Et si vous avez envie de poser votre question en direct par téléphone, c'est également possible, hein, on vous donne l'embarras du choix, hein. C'est au 0901 70 20 20, pour 36 centimes à la minute qu'il vous faut appeler. Donc le 0901 70 20 20, jusqu'à 8h.
Et pour aménager notre balcon ou notre terrasse, on va pas faire ça n'importe comment. On va pas simplement lancer des bacs à fleurs sur la terrasse. Non, on va apprendre tout dans les règles de l'art avec Olivier Ribaud. Pour choisir quelles plantes vont orner notre balcon, il faut tout d'abord déterminer son orientation. Une orientation plein sud est bien différente d'une orientation plein nord. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ?
Alors oui, tout à fait. L'orientation, l'exposition du soleil est importante. Ça dépend aussi si vous voulez cultiver un petit potager ou bien si vous voulez ornementer votre balcon de fleurs, de plantes que décoratives, parce qu'il y a des plantes qui sont beaucoup plus adaptées pour des périodes très sèches, très chaudes, plein sud, ou alors des plantes qui sont pour des balcons qui sont situés plutôt à l'ombre. C'est plutôt rare, on a plutôt les balcons qui sont situés plein soleil, plein sud, donc on va les ornementer avec des plantes qui viennent à l'origine déjà de situations chaudes, donc des côtés sud, des pays chauds, des régions sèches, et c'est ces plantes-là qui vont supporter le mieux ces conditions très arides en plein soleil pendant la saison d'été.
On parlera tout à l'heure de la quelle plante vraiment choisir. Olivier, est-ce qu'il y a des réglementations pour planter des choses sur les balcons ou les terrasses ? Est-ce qu'on doit demander une autorisation à notre gérance, par exemple ?
Alors, tout du temps que vous portez pas préjudice, soit au voisin, soit au voisin du dessous, du dessus, et puis détériorer la moitié du balcon, je ne pense pas. Il faut savoir qu'on va toujours planter des plantes sur des balcons, soit dans des bacs, soit dans des pots. Des moyens modernes maintenant, des palettes constituées pour faire des bacs et autres. Donc, tout du temps que ça reste des installations qui sont soit éphémères, soit qu'on peut redémonter, il n'y a pas d'autorisation spéciale pour ça.
Une petite question comme ça, on ne sait jamais. Hein. Par exemple, on veut planter quelque chose sur notre balcon et puis on se dit, ça m'embête d'acheter un bac, on met la terre à même le sol. C'est une mauvaise idée ?
C'est une mauvaise idée, ouais. Ça dépend. Si on remplit tout le balcon, peut-être.
C'est sympa, ça fait ambiance plage.
Ouais, non, mais il y a des moyens très simples. J'ai vu l'été passé chez un client, il avait pris des sacs de terreau qu'il avait acheté dans le commerce. Et puis, vu qu'il n'avait pas de bac, il n'avait rien, il les avait couchés au sol. Et il avait fait des petits trous dedans, il avait planté des salades, ça faisait juste magnifique. Et puis, la terre, elle reste dans le sac, ça reste propre.
Ça ne fait pas de chenille.
Ça ne fait pas de chenille, c'est plus pour le propriétaire encore que pour le balcon.
Et qu'en est-il des branches ou des plantes qui dépassent du balcon de la terrasse ?
Après, ça dépend le voisin du dessous. Si des plantes qui reviennent regrimper sur vos plantes qui descendent, ça peut être un bel ensemble. Mais sinon, il faut garder un respect de son voisin et puis que les plantes soient quand même pas trop imposantes pour que ça fasse pas du chenille sur les 3-4 propriétaires en dessous de chez vous.
Et niveau sécurité, est-ce qu'il y a des normes ? On veut par exemple installer un gros bac de terre et la terre peut devenir très lourde si elle est mouillée par exemple. Y a-t-il un poids maximum que peut supporter la terrasse ? Vous en tant que paysagiste, comment vous faites quand vous allez chez un client pour savoir quel poids va supporter un balcon ?
Alors quand on va chez les clients, tout du temps qu'on met des bacs et des pots qui sont, je dirais, standards, qu'on trouve dans les commerces, qui sont achetés par le monsieur tout le monde. Là, les balcons sont conçus pour ça, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous commencez de faire un bac imposant qui va couvrir les trois quarts de votre balcon, là, il faut se tourner vers le propriétaire, vers l'architecte qui a construit le bâtiment pour voir si c'était calculé par rapport aux normes pour soutenir ce poids de bac. Mais si vous plantez si vous imposez quelques bacs à votre balcon avec de la terre, des bacs de 40, 50, 60 cm selon carré ou rond, c'est égal, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. La dalle est quand même prévue et puis va supporter ça.
La dalle est prévue, ça c'est bien. Et justement, cette dalle, il faut quand même la protéger quand on va arroser arroser les plantes pour pas causer des dégâts sur cette dalle.
Alors, c'est déjà une question pour soi-même. Si on protège, on va mettre des bacs avec des réserves d'eau, on va mettre des bacs avec des fonds où l'eau peut rester dedans, on va mettre des assiettes, on va avoir éventuellement des fois des bacs qui sont intégrés dans le balcon avec un tuyau qui va évacuer l'eau qui aura en trop. C'est pour une question de propreté. Puis cette eau, on va la diriger soit dans le balcon, il y a des grilles d'évacuation, on va la diriger dans un endroit qu'elle va disparaître proprement. Donc c'est juste pour que ça reste propre partout.
On a fait le tour donc de ce qu'on a le droit de faire sur notre balcon ou sur notre mini terrasse. On va vous aider tout à l'heure à choisir les plantes, mais d'abord c'est le moment de se tourner vers vous, Eileen, pour savoir si du côté des auditeurs ça bouge un peu.
Ça bouge un peu. On a reçu une question par formulaire de Mario qui nous vient tout droit de basse-cour, qui nous demande: j'ai un cactus appelé aussi euphorbe succulente ou cactus trigona. Il touche actuellement le plafond de la pièce et j'aimerais savoir comment le raccourcir et à quelle période faut-il le faire. Merci et bonne émission. Alors Olivier, une petite idée pour aider Mario?
Oui, alors c'est tout ce qui est cactus, vous pouvez les raccourcir. Il faut savoir que quand on coupe une plante, un cactus ou une plante verte, c'est égal, là où vous allez couper, c'est là où ça va repousser. Dans les 8 à 10 cm en dessous de ce que vous coupez, c'est là qu'il va refaire une pousse. Donc même un yucca, si vous le coupez à 1 mètre, il va repousser à 1 mètre. Donc automatiquement, c'est lui qui décide là où il a envie que son cactus repousse. Puis pour couper un cactus, c'est très piquant. Souvent on va prendre des gants, ça c'est une chose, mais le meilleur moyen pour pas se piquer, vous prenez du papier journal, vous le froissez bien, puis vous allez faire un espèce de torchon autour de là où vous voulez l'empoigner. Après vous mettez encore bien sûr des gants, mais des fois nous on met même pas de gants, on prend que le papier journal, on serre bien, on fait un torchon, puis vous empoignez ça. Après vous allez couper avec un cactus, c'est quand même... On pense que c'est tendre sur les extrémités, sur le pourtour. Mais après, vous allez prendre carrément une petite scie en main, donc on coupe une branche d'arbre ou autre, et puis vous allez couper ça. Et des fois, il va sortir un lait laiteux, donc vous allez prendre de nouveau du papier journal humide que vous allez tout de suite mettre dessous ce que vous avez coupé, et puis aussi dessus la coupe, pour que le papier journal humide absorbe ce lait, pour que ça ne coule pas partout. Et puis après, vous allez laisser sécher cette partie de cactus que vous avez coupée pendant 15 jours, 3 semaines, couchée quelque part où il fait chaud. Et le lait va se cicatriser. Et puis quand le lait a fini de couler à cette partie de cactus, et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, vous pouvez le remettre en terre et il va refaire des racines.
C'est aussi simple que ça. En fait, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, même si ça pique un peu. Merci beaucoup.
Voilà.
Merci beaucoup, Olivier. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. S'ils ont envie de poser leurs questions, ils peuvent le faire par SMS en tapant le mot jardin, suivi d'un espace, puis de la question, le tout envoyé au 939, ou alors par téléphone, s'ils veulent poser directement la question à vous. C'est au 0901 70 20 20 que ça se passe, le 0901 70 20 20. C'est le numéro des jardinières.
Et nous, on va du côté d'Eileen pour voir si on a des appels d'auditeurs.
Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler, en effet, pas d'appel encore pour le moment. Vous pouvez nous appeler maintenant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous posez directement votre question à notre invité Olivier Ribaud. Il est là pour y répondre. Promis, il ne mord pas. Le 0901 70 20 20, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour poser votre question à notre invité aujourd'hui. Si vous êtes un peu plus timide, l'option SMS est là pour vous. Vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. questions, le tout à envoyer au 939.
Et ce matin dans les jardinières, on parle des terrasses et des balcons, et souvent ce sont des espaces restreints. Olivier, comment choisir la bonne plante en fonction de la place à disposition? On va voir avec vous de quoi il faut tenir compte.
En choisissant les plantes, il faut bien sûr tenir compte de la luminosité qu'offre notre balcon. Quelle plante choisir si on n'a que peu de soleil? Vu qu'en général, les balcons sont très ensoleillés, parlons de ces pauvres personnes qui ont un balcon sans soleil.
Alors oui, tout à fait. Les plantes qui vont très bien dans des situations où il n'y a pas beaucoup de soleil sont déjà toutes les plantes qui ne font pas de fleurs. Donc tout ce qui sera plante à feuillage, qui a des coléus, des fleurs qui vont aussi rester que pour une saison, des plantes annuelles. Il y a beaucoup de variétés qui vont que pour l'ombre, donc des plantes à feuilles.
Puis après, quelques exemples concrets
comme ça, là sous la main, enfin, plantes de printemps, coléus, toutes les hypomées, des vraiment, mais ce sera que des plantes qui vont être obligées d'être changées toutes les années.
D'accord.
Et après, il y a aussi tout ce qui est en fleurs donc, pour l'ombre, comme les fuchsias, les bégonias tubéreux. C'est aussi des plantes qu'on peut mettre sur des balcons qui vont justement dans des situations à l'ombre.
On rêve d'un joli balcon, d'une belle terrasse pleine de couleurs et de senteurs, le plus longtemps possible, bien sûr. On anticipe, hein, le printemps va arriver. Quelle plante choisir pour bien démarrer?
Alors, pour bien démarrer le printemps, on va déjà commencer assez rapidement. À la période de Pâques, on va commencer déjà à décorer avec tout ce qui est les primes verts, les pensées, jacinthes, jonquilles. Donc, ça sera l'occasion de mettre un coup de printemps sur notre balcon. Et ça, ce sera à partir de la période du début mars. On va déjà commencer de mettre ces fleurs. Et puis après, on va commencer après les saints de glace, donc à partir de la mi-mai, à embellir notre balcon par toutes les plantes d'été, géranium, pétunia, surfinia, les dipladenia et toutes ces fleurs qu'on peut planter qui resteront toute la saison d'été après.
Et toutes ces fleurs, on les trouve en grande surface ou dans des magasins spécialisés, c'est égal?
Alors moi, je vais toujours prôner pour le petit commerce de détail. Vous allez trouver ça déjà chez toutes les fleuristes, chez tous les producteurs de fleurs qu'on a encore beaucoup dans notre région. Et puis après, bien sûr, on court toujours un petit peu dans les grandes surfaces.
Sur notre terrasse ou notre balcon, on aimerait se cacher du vis-à-vis et se faire un petit cocon. Il nous faudrait donc des plantes qui montent et qui soient bien touffues pour bien nous abriter des regards. Des plantes qui tiennent toute l'année. Est-ce que cette plante existe? Si oui, laquelle?
Alors, il existe une plante qui est assez particulière et puis qui va très bien sur des balcons qu'on peut planter en bac aussi. C'est tout ce qui est des graminées. Alors, c'est une plante qui pousse très vite pendant la saison d'été. Elle va venir, vous avez certaines variétés qui vont venir jusqu'à 1 mètre, 1,20 mètre de haut, selon le bac que vous avez. Et puis en automne, elles vont venir sèches, on peut faire un peu des fagots avec, les attacher. Puis, par contre, pendant l'hiver, on va les recouper, et ça va nous ramener de la lumière sur notre balcon et autres. Et puis au printemps suivant, à partir de la belle saison, fin avril, début mai, elles repoussent. Et puis pendant la belle saison d'été, juin, juillet, août, elles refont déjà 80 cm, 1 mètre, sans problème.
Voilà. Je vous ai coupé, Mylène.
Non, c'était tout bon.
Alors voilà, comment choisir les plantes décoratives. On peut aussi faire un petit potager sur son balcon. On n'est pas obligé de mettre seulement des fleurs ou sur sa terrasse. On va voir ça avec vous, Olivier Ribaud, paysagiste à Queuves, dès 7h40.
7h, 8h, les jardinières.
Il est tout à fait possible d'aménager un petit potager sur un balcon, pas que des plantes ni des fleurs, ou sur une terrasse. Il ne pourra peut-être pas nourrir toute la famille et ce toute l'année, mais quel plaisir d'aller ramasser quelques plantes aromatiques ou des tomates directement sur son balcon ou sa terrasse.
Et je vous rappelle que dans les jardinières, vous pouvez nous poser les questions jusqu'à 8h, soit par SMS. Vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question, le tout à envoyer au 939. Ou alors, vous pouvez nous appeler maintenant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Je vous rappelle le numéro que vous pouvez composer jusqu'à 8h, le 0901 70 20 20.
Olivier Ribaud, on va commencer par mettre en place notre potager. On ne va pas jeter la terre au sol, hein, comme pour les fleurs, on ne le fait pas. De quoi a-t-on besoin pour créer un potager?
Alors, on peut faire un petit jardin potager avec plusieurs solutions. On peut déjà planter carrément dans des bacs à fleurs, ou dans des pots. On peut agrémenter plusieurs pots de différentes grandeurs. Ça peut être très joli aussi parce que ça peut faire un effet décoratif. On peut prendre des grands bacs en éternite qui sont aussi sur le commerce. Ou après, vous pouvez aussi trouver maintenant sur le commerce des petits jardins en hauteur qu'on va monter soi-même avec quatre pieds et puis qu'on va mettre de la terre dedans. Et puis après, ben, pour les plus bricoleurs, on peut faire des petits jardins maintenant avec des palettes qu'on va assembler ensemble, qu'on va mettre debout, qu'on va mettre une toile à l'intérieur et puis qu'après, on va mettre un tuyau du haut en bas pour l'arrosage et qu'on remplit tout ça de terre et puis qu'après, on peut planter et dessus et sur les côtés.
Vous avez parlé de bacs en éternite. Moi, je pense aussi aux bacs en plastique. Il y a une matière à privilégier pour le légume ?
Alors non, c'est toujours une question d'entretien parce que si on va mettre un bac éternite, il va retenir un peu d'humidité et vos plantes vont sécher moins vite en été. Le bac en plastique va transmettre la chaleur à travers le plastique plus rapidement, donc votre terre séchera plus vite. Quand vous utilisez de la terre pour mettre dans un bac, il faut toujours utiliser aussi un petit peu de terre argileuse. Ça veut dire qu'il ne faut pas remplir que de terreau qu'on va acheter dans le commerce. Ce qui serait bien de retrouver, c'est dans nos premières émissions, on avait parlé de terreau de feuilles une fois, il y a déjà quelques mois. Donc on peut reprendre ces terreaux de feuilles, mélanger avec du terreau universel qu'on achète. Où on a entendu ces derniers jours, il y a des gens qui ont des taupinières dans leur jardin, donc on peut ramasser cette terre, la mettre dans des bidons maintenant, la garder dans un coin de la maison, et puis au printemps, mélanger cette terre qui est très argileuse, qui va retenir beaucoup l'eau, la mélanger avec du terreau, on va faire un moitié-moitié, et on va mettre ça dans nos bacs. C'est toujours l'argile, la terre argileuse, donc c'est dans les champs, dans les jardins, la terre de jardin, ou même aller chercher en forêt de la terre qui se trouve sous la couche des feuilles. Vous en prenez une dizaine de bidons que vous allez mélanger avec le même volume de terreau, et vous allez mettre ça dans vos bacs à fleurs, dans vos pots, dans vos jardinières, n'importe quoi, et c'est là-dedans que vous allez planter vos légumes. C'est cette terre qu'on va prendre à gauche, à droite, donc en terre argileuse, qui retiendra l'humidité. Ça vous empêchera d'être obligé d'arroser très souvent. Parce qu'un potager, donc tout ce qui est légumes, pour que ça grandisse bien, c'est quand même l'humidité qui les fait pousser. Donc si vous plantez des choux, des salades, on va leur demander un grand développement de feuillage. Donc c'est l'humidité qui va remplir ça. Donc si vous devez être deux fois par jour pour arroser, parce que l'eau que vous mettrez dans vos bacs passe directement tout autre, c'est pas très intéressant, puis vos légumes resteront tout petits.
Vous avez parlé d'aller chercher la terre dans la forêt ou sur les taupinières.
Oui.
C'est possible qu'il y ait des vers de terre dans cette terre. C'est bon, ça, pour nos légumes ?
Alors oui, sans problème. C'est ça qui va faire travailler aussi le mélange. Ça va mélanger la terre, ça va faire travailler l'aération de la terre. Donc automatiquement, si les vers de terre vont faire des petits caniveaux, donc vous mettrez de l'eau dedans. Vous arroserez par le haut, l'eau va descendre dans le fond de votre bac. Vous aurez peut-être mis une couche de léca ou de gravier au fond du bac. Et après, par la capillarité, donc l'eau va remonter dans le bac et ça va revenir à la surface pour arroser, donner de l'humidité à vos légumes.
Parfois, les balcons ou les terrasses ont des murs autour, hein, pour la sécurité, tout d'abord. Mais ça empêche le soleil de passer. Donc, est-ce que notre potager, c'est mieux si on le met surélevé pour qu'il ait plus de soleil ?
Non, c'est pas nécessaire, je dirais, même si vos bacs ils sont en dessous du mur. Par contre, que le légume ou le chou, la salade, ou n'importe, même si vous semez des radis, ce sera eux qui dépasseront le mur, qui viendront capter la lumière et puis le soleil pour se développer. Et le bac restera un peu à l'ombre, donc il n'aura pas le soleil violent et puis il séchera moins vite pendant la saison très chaude de l'été.
Comme nos légumes ne poussent pas en pleine terre, comment faire pour les aider à ne pas être vulnérables ?
Alors justement, comme j'expliquais avant, un légume, c'est une plante qu'on veut faire grandir pour déjà manger, c'est clair. Mais un légume, c'est une réserve. Si on sème une carotte, le feuillage va grandir. Mais la carotte, c'est la réserve. C'est ce que la plante va travailler par le feuillage pour remplir sa réserve. Donc, ce qu'on va retirer, la carotte. Donc, plus on fera pousser notre carotte, je prends l'exemple de la carotte, mais plus on fera pousser, plus la réserve sera grande. Donc, automatiquement, si vous avez un bon terreau qui est très riche, on peut l'améliorer. On a dit avant, bon, mais mettre du terreau, mettre du terreau de feuilles, de la terre de feuilles, de la terre de jardin. Mais avec ça, on peut améliorer. On trouve maintenant dans les commerces des fumiers bovins desséchés. On trouve de la râpure de corne. Donc, c'est des éléments nutritifs. engrais entre parenthèses, mais qui sont organiques, donc qui ne sont pas chimiques. Donc vous pouvez mélanger ça avec votre mélange de terre, et puis ça vous amènera des vitamines, des nourritures, pour ces légumes qui vont se développer, aussi bien la carotte que si on va planter un chou, ou bien si on va planter une salade. Il y a différentes... Quand on plante un légume qu'on a acheté, qui est un jeune plant, eh bien, il faut le nourrir passablement. Par contre, si vous semez des radis ou bien si vous semez des jeunes plants de tomates, alors là, vous ne mettez pas ces nourritures, vous ne mettez que le terreau. Mais au moment que vous les replantez, c'est là que vous allez amener cette nourriture.
Merci beaucoup Olivier Ribaud. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour nous parler justement des plantes qu'on peut installer sur notre balcon ou notre terrasse, mais également pour répondre aux questions des auditeurs, questions que l'on attend par SMS en tapant le mot jardin suivi d'un espace puis de la question, le tout à envoyer au 939 ou maintenant par téléphone au 0901 70 20 20. On attend vos appels au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Et lui, il est bien vivant, c'est Olivier Ribaud, paysagiste à Queville. Il est en notre compagnie ce matin. Il nous aide à préparer sa terrasse ou son balcon pour accueillir un potager. On a vu ça tout à l'heure, donc on va regarder maintenant ce que l'on peut planter. Mais d'abord, on s'intéresse au courrier. Aileen, on en est où?
On a reçu une question de Lucienne de Baule qui nous demande justement qu'est-ce qu'elle doit faire de son citronnier. Parce que son citronnier, elle l'a mis à l'intérieur, il fait actuellement à peu près 0 degré dans la pièce où elle l'a mis, mais les feuilles commencent à sécher, voire à tomber. Donc elle se demande si elle doit justement l'arroser plus souvent, ou bien qu'est-ce qu'elle doit faire de son citronnier, si c'est grave ou pas, si les feuilles sèchent.
Alors si les feuilles sèchent, ça peut être... trois choses. La première, c'est qu'elle a peut-être eu quand même un choc de température et puis maintenant la plante va rejeter ses feuilles. Pour l'arrosage, il faut contrôler le sol. Si son terreau dans lequel il est planté, il est assez humide, il ne sert à rien de l'arroser. En plus, s'il a perdu ses feuilles, il ne va plus beaucoup travailler au niveau du feuillage. Donc, mais quand même tenir le terreau humide. Le passer, le garder à 0 degré, pas en dessous hein, quand même, 0, 5 degrés, parce que maintenant il fait quand même très froid, donc si on peut le mettre peut-être quelques semaines dans un endroit il y a tout petit peu plus chaud, 4, 5, 6 degrés. Et puis après au printemps, le remettre en vie avec le arroser, ramener de l'engrais, et puis il va rebourgeonner, puis refaire une nouvelle poussée de feuilles. Chose qui est sûre, c'est s'il perd ses feuilles maintenant, il va rester nu comme ça jusqu'au mois de, en tout cas avril, sans refaire de bourgeons de feuilles.
Et si en avril il refait des bourgeons de feuilles, c'est déjà trop tard pour qu'il donne des fruits ensuite ?
Non, pas du tout. Il peut refaire des feuilles, il peut refaire des fleurs en mai, juin, juillet, pendant l'été. Et puis refaire des petits citrons qui arriveront à l'automne, qu'elle pourra laisser dessus, puis qui vont mûrir le printemps suivant.
Merci beaucoup Olivier. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser nos questions jusqu'à 8h par SMS en tapant le mot jardin, suivi d'un espace, puis de la question, le tout au 939 ou par téléphone comme l'a fait Lucienne pendant la chanson précédente. Vous nous appelez au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Je vous rappelle le numéro, le 0901 70 20 20.
Ce matin, chez les jardinières, on s'intéresse à votre balcon et à votre terrasse. On a notre petit potager de près, il fait un mètre sur un mètre, on l'imagine. Ça peut paraître petit, mais on va pouvoir y planter pas mal de choses. Olivier Ribaud, on commence par planter quoi ?
Alors, on va pendant le printemps très tôt, donc c'est-à-dire à fin mars, début d'avril, même déjà fin mars, on peut déjà planter les premières salades. On peut planter quelques choux-pommes, par exemple, en légumes. Et ça, vu que c'est sur un balcon, on peut les protéger un tout petit peu les nuits par un voile d'agril, par exemple. Mais fin mars, début d'avril, on peut planter les premières salades, et puis les premiers choux-pommes, les choux de printemps, par exemple. Et puis après, sur la période de mi-avril, fin avril, on peut commencer de semer les premiers radis, parce que c'est toujours agréable au printemps, les petits radis. Et puis on va, pour les plantes plus délicates, comme tomates ou concombres ou courgettes, ça, on va quand même attendre après les saints de glace, après le 15 mai, pour planter ces plantes à légumes plus délicats.
Est-ce qu'on peut planter n'importe quel fruit dans un bac ou dans un pot sur sa terrasse ou son balcon ?
Alors, comme vous disiez avant, si on a un petit jardin d'un mètre sur un mètre et puis qu'on veut faire un tournus de légumes, on va garder cet endroit pour mettre des légumes qu'on renouvelle. Donc, si on a mis une salade mi-avril, 6 à 8 semaines après, on va l'enlever, 6 semaines. On va en remettre peut-être une autre série. Et puis, cet endroit, on va faire qu'avec des légumes en tournus comme ça. Par contre, si on veut mettre des petits fruits, on peut planter des fraisiers, on peut planter des framboisiers dans un grand bac. On va peut-être faire des bacs séparés et parce que ce seront des plantes vivaces qui vont rester dans ces bacs ou dans ces pots. Donc on va aussi les nourrir un peu différemment. Donc c'est bien de faire un pot ou un grand bac avec ces framboises. On peut planter aussi les groseilliers, les petites groseilles rouges ou blanches qu'on peut mettre dans un bac. Et ça, on va avoir des bacs séparés. Comme ça, c'est des plantes qui vont être différentes. Et puis même le fraisier, on peut avoir un grand tonneau, un grand pot avec des trous sur les côtés. Et puis remplir tout ça de fraises qui sera entretenu différemment qu'un fraisier ou qu'un groseillier. Mais ça va très bien en bac et en pot.
Est-ce que c'est possible de planter un petit fruitier sur sa terrasse ou son balcon dans un pot? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple avoir des pommes ou des poires ou un autre fruit?
Alors le plus simple, ça restera le pommier, c'est clair. C'est un petit peu pour le fun et puis le rigolo d'avoir un pommier en pot. Il y a des variétés naines, il y a des arbres qui sont greffés, il y a même des pêchers qu'on peut planter en pot qui sont nains, qui restent très très petits, qui vous donneront quelques fruits, bien sûr.
Des mini-pommes.
Et les fruits ne seront pas très grands, ça aussi. Mais c'est des variétés spéciales. Vous trouvez dans le commerce des fruitiers, pommiers, pêchers, les poires aussi un petit peu, mais moins. Mais on peut les entretenir en pot puis avoir quelques fruits. Ça va être un petit peu comme si on cultivait après un pommier, je dirais bonsaï. Il ne va pas pousser beaucoup. Il va faire par contre beaucoup de fleurs parce qu'il sera un petit peu chétif, un peu plus rabougri dans son pot. Mais il ne donnera pas beaucoup de fruits. Mais quelques-uns quand même.
Olivier, on va se tourner vers Eline qui a une question, même deux.
Ok.
Même deux, exactement. Donc on a Françoise de la Chaux-de-Fonds qui nous a appelé tout à l'heure pour nous demander la question suivante. Ces légumes sont restés très petits l'année dernière. Elle se demandait si c'était un manque d'engrais. Enfin, elle pense que c'est ça. Du coup, elle a décidé de mettre du fumier dans ce potager, justement. Et puis elle se demande quand est-ce qu'elle doit mettre ce fumier, quel est le meilleur moment pour le mettre. Et surtout, ensuite, quand mettre les plantons une fois qu'elle aura mis ce fumier.
Alors oui, c'est clair que si les légumes sont restés petits, c'est comme on expliquait avant, c'est un manque de nourriture. Donc si elle amène un fumier frais, je ne sais pas comment elle a amené son fumier, mais soit, c'est une matière, le fumier, qui est organique. Donc il va falloir en tout cas 6 mois jusqu'à ce que l'élément nutritif qui se trouve dans ce fumier puisse être absorbé par la plante. Parce qu'il y a plusieurs phase qui doit faire que ce fumier se décompose et puis que la plante puisse l'absorber. Donc si elle veut le mettre, elle doit le mettre rapidement, c'est-à-dire même déjà à l'automne, quand sa culture d'automne est finie, au mois de septembre-octobre, on peut mettre ces fumiers dans la terre. Et puis quand on plante nos premiers légumes au printemps, choux, salades ou autres, le plant peut déjà commencer d'absorber ce fumier. Un petit peu à grande échelle, ce qu'on voit, les paysans, ils vont épandre les fumiers sur les champs à l'automne ou très tôt au printemps, et après ils vont les labourer, puis la plante va absorber ces matières organiques pendant la saison d'été suivante. Donc vous trouvez des fumiers desséchés, que ce soit bovins, volailles ou autres, et puis comme on disait avant, les râpures de cornes, c'est aussi, on peut les mettre très vite maintenant au printemps, au mois de février-mars. Puis comme ça, vos plantes, au mois de mai, juin, juillet, peuvent absorber l'élément nutritif qui va sortir de ces apports de fumier.
On a également reçu une question par SMS. La question est la suivante. Notre amaryllis a fleuri en septembre. Maintenant, il fait des feuilles. Est-ce qu'il peut refleurir ?
Alors oui, tout à fait, c'est l'amaryllis, c'est le même principe qu'une tulipe, qu'une jonquille. Donc c'est un oignon, il a été mis au chaud, donc il a fait une grande fleur. Maintenant il fait les feuilles, c'est ces feuilles qui poussent, qui vont absorber la lumière, qui vont absorber de l'énergie, qui vont re-remplir, schématiquement, mais qui vont re-remplir l'oignon. Donc on va l'arroser, on va le faire pousser comme une plante verte. Il va faire plusieurs feuilles. La tige où il y avait la fleur, elle va sécher. On va la laisser bien sécher. Puis quand elle est bien sèche, on peut la tirer, elle doit sortir toute seule. Et puis ces feuilles vont remplir l'oignon. Puis à un moment donné, ces feuilles, vers l'automne aussi, vers le mois de septembre, octobre, elles vont aussi sécher. Donc on va après arrêter l'arrosage, on va laisser sécher cet oignon complètement. Et puis après, au mois de novembre, décembre, janvier, ça dépend quand on aura commencé de voir les feuilles sécher. Mais quand elles sont bien sèches, si on le arrose deux mois après, eh bien, l'oignon qui a été rempli par ses feuilles va ressortir une tige et va refaire une fleur. C'est le principe des bulbes. Après la fleur, le feuillage reconstitue le nouveau bulbe.
Merci beaucoup Olivier pour avoir été là ce matin. Merci pour avoir répondu à toutes nos questions. Les jardinières, c'est déjà terminé. N'hésitez pas pour notre prochain rendez-vous à envoyer vos questions. On vous souhaite de passer, à vous Olivier et à vous qui nous écoutez, un excellent week-end. Les filles, on se donne rendez-vous même endroit dès 7h semaine prochaine. Ça vous va?
Ça nous va. Merci beaucoup Olivier. Merci.
Merci à vous. Merci.
Bon week-end.
À bientôt.
7h, 8h. Les jardinières.